Bonjour Issa. Alors, à de l'autre côté, ce soir, donc c'est à Ganges, le vernissage de l'exposition d'Olivier Depré, Cinématogravure, texte, image, mouvement. Olivier Depré est un des cofondateurs de Fremok, FRMK, maintenant sur leur site. C'est une trouvaille. Groupe de dessinateurs-auteurs qui ont bousculé le monde de la bande dessinée franco-belge pour l'ouvrir à d'autres espaces narratifs. Olivier Depré est avec nous dans le studio pour nous présenter son œuvre contemporaine de graveur sur bois. A tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous l'avez entendu, Issa est en technique, donc tout va bien. Il y aura une proposition musicale choisie par Olivier Depré. Nous allons écouter ensemble successivement Giovanna Marini qui a composé une musique sur les textes de Pier Paolo Pasolini. Il y aura The Cure avec un extrait de ce très bel album Pornographie, et puis Ligeti, et un de ses quatuors à cordes. Une brève, juste avant de démarrer le 18, samedi 18, c'est donc samedi en 8, il y a le vernissage de l'exposition, d'une exposition, à l'Orbise, qui est donc ce nouveau lieu qui a fait une saison, donc en 2025-2026, ça s'était arrêté en novembre, et puis pour l'année 2025, et là on retrouve avec les beaux jours ce lieu d'exposition qui rassemblait un ensemble d'œuvres qui peuvent rester de façon permanente, mais il y a toujours par saison des invités. Et là, il y a Mertens Bathory, il y a Dominique Sappel, Sarah Patroni, il va y avoir des décors de Eric Van de Godoy, je vais y arriver. Et donc, vous allez pouvoir découvrir à partir du samedi 18, le vernissage donc est à partir de 18h, et l'émission de la semaine prochaine sera entièrement consacrée à cet événement avec plusieurs auteurs en studio. Alors, comme je l'ai évoqué dans le lancement de cette émission, nous allons la consacrer à Olivier Depré, qui est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour Bruno.
Alors, on va évoquer cette œuvre de graveur sur bois. Une première question, à quel moment s'est décidé de dire « je suis graveur sur bois » ? Est-ce que ça s'est fait tout de suite ? Est-ce que c'était une pensée qui s'est imposée au fur et à mesure de l'œuvre ?
Alors, en réalité, ça s'est passé comme ceci. C'est que le premier livre dans lequel je me suis lancé, la première œuvre, c'était une adaptation du Château de Franz Kafka. Et à ce moment-là, donc c'est au milieu des années 90, et à ce moment-là, je ne suis pas encore graveur sur bois. Et quand je lis ce texte de Franz Kafka, je ne connais pas d'emblée la technique que je vais utiliser. Quelle sera la technique la plus adéquate à rendre compte de ce texte ? Et pendant 4 ans, en réalité, j'ai cherché la bonne technique Parce que dans ce texte, il y a d'une part généralement une ambiance de noir et blanc. Évidemment, Kafka évoque des couleurs de temps en temps, mais c'est un paysage de neige, c'est la nuit. Et il y a aussi du brouillard. Et dans les maisons, il y a la fumée du poêle. Et donc, on avait ce côté à la fois tranché du noir et blanc, et cette espèce de sfumato, en fait, qui habitait aussi l'image kafkaïenne. Et donc, je cherchais une technique qui me permettait de rendre compte ce noir et blanc et ce sfumato. Et un jour, en imprimant des bois pour une commande d'une revue hollandaise, j'avais réalisé quelques gravures sur bois. Et dès que j'ai imprimé ces gravures sur bois, je me suis rendu compte que c'était exactement la technique que je devais utiliser pour réaliser le château. Et en effet, quand j'ai dessiné et gravé les premières pages, que je les ai imprimées, c'était ça, et je me suis lancé. Donc j'ai réalisé 220 gravures pour réaliser le livre. Et à la fin de cette création en gravure sur moi, en quelque sorte, je suis devenu graveur. Mais il m'a fallu quelques années en réalité pour vraiment accepter cette idée que j'étais devenu un graveur sur moi.
Alors, qu'est-ce qui était, Olivier Depré, difficile dans cette acceptation? Est-ce que ça s'accompagnait de renoncement à autre chose? Est-ce que il y avait une appréhension qui restait?
Je crois que c'était plutôt lié au livre que j'avais fait, au château, parce que quand votre première œuvre, quand votre premier livre est une adaptation du château de Franz Kafka, il est très difficile de dépasser ce livre et de se projeter dans un autre livre, parce qu'on, d'une part, on reste habité par ce livre, et d'autre part, ça m'a obligé à mener déjà un point assez extrême, un propos, et d'une certaine manière, je devais retrouver mon souffle, et à ce moment-là, je n'avais pas l'impression que la gravure sur bois allait devenir définitivement ma technique de prédilection, et qu'elle allait même devenir plus qu'une technique. C'est un mode de... La gravure sur bois, pour moi, est devenue aujourd'hui une façon de réfléchir à la création artistique, de réfléchir à ce qu'est une image. Mais à ce moment-là, ce n'était pas encore le cas. Et j'avais l'impression, d'autre part, que en me cantonnant dans la gravure sur bois, j'allais me priver d'autres possibilités. Et donc, j'ai réalisé un livre je me suis tourné vers une toute autre technique, qui est un autre rapport au médium, qui est la peinture à l'huile, qui est vraiment l'opposé du geste de la gravure sur bois, parce que la gravure sur bois, le geste, c'est un geste qui incise, qui entre dans la matière et qui taille. Tandis que le pinceau de la peinture à l'huile, il est en surface, il glisse, il se déplace avec une aisance autrement souple et fluide que la gouge du graveur. Je suis passé aussi par un moment le fusain aussi. Alors le fusain, je retrouvais un peu une technique de graveur. Pourquoi? Parce que quand on pose la matière du fusain, on peut venir retailler des blancs avec la gomme dans le fusain. Et donc là, je retrouvais ce geste du graveur qui vient tailler dans la plaque, qui vient creuser son blanc, puisque le geste du graveur, il consiste à enlever de la matière et à créer donc un vide qui devient un blanc pour faire émerger la forme. Et progressivement, je me suis retrouvé dans des situations, d'une part, une création collective de scénographie dans le monde du théâtre avec Frémok, où j'ai rencontré, il s'agissait de créer des duos d'artistes pour cette scénographie de théâtre où un dessinateur ou dessinatrice de Frémok œuvrait avec un ou une artiste, avec un ou une comédienne du théâtre. Et moi, j'ai rencontré Maës O'Shea, un Irlandais, et alors on a commencé à réfléchir à un usage de la gravure sur bois, à imaginer un dispositif d'une machine roulante avec une presse qui pourrait se déplacer sur la scène, où Maës imprimerait les images au fur et à mesure qu'il parlerait. Les images, elles parleraient de son aventure, mais les images renverraient aussi à la presse en train d'imprimer. Alors voilà, là il y avait un nouvel élément qui pour moi justifiait l'usage de la gravure sur bois, c'était intégrer tout cet aspect performatif en fait. Tout cet aspect, tout ce mouvement, cette mise en mouvement, il y a vraiment eu une mise en mouvement de la gravure sur bois, qui a été amplifiée par une autre rencontre, parce qu'à la même époque, je rencontre Adolfo Avril, dans le cadre aussi d'une aventure collective avec Frémok.
Ça, c'est cette étape, de la rencontre avec l'AS Grand Atelier à Bielsam, où on a eu aussi les duos avec... Donc le match de catch à Bielsam, qui est la première édition de ces rencontres pensionnaires et artistes de Frémok. Et puis donc avec Adolfo Avril, ça s'est poursuivi. Comment ça s'est passé donc ?
Oui, alors avec Adolfo, je vais trouver aussi des nouvelles façons, des nouveaux usages de la gravure. Alors une question, enfin... Un élément qui s'est imposé rapidement, je dirais même à nous deux, c'est quand on travaille avec une autre personne, c'est comment amener un imaginaire commun, un imaginaire qu'on puisse partager et qui ne soit pas un imaginaire qu'on vienne imposer en fait à cette personne et inversement, mais que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de la rencontre. Et pour arriver à cet imaginaire qui puisse émerger de cette rencontre, on a utilisé des procédés. Très simple, on s'est filmé, photographié dans cette ancienne caserne. Donc le lieu, c'est une ancienne caserne qui se trouve sur les hauteurs de Bielsam, entourée de forêts. Donc vous imaginez, c'est une ambiance très fantastique, très expressionniste en réalité. Et puis par ailleurs, on a visionné des films de vampires, des films de Dreyer, des films tout en noir et blanc. Et on a extrait toutes des captures écran à la fois de nos déambulations et des films, et on les a mis sur un mur, et ça devenait au fond l'espace dans lequel on allait se déplacer. Et donc Adolfo choisissait une image, on choisissait une autre, et progressivement, comme ça, on a commencé à mettre au monde tout un univers, et puis nous-mêmes, on est devenus des personnages de cet univers. Et Adolfo me racontait ces histoires d'hôpital psychiatrique, là où il vit, et on était donc immergé dans ces récits à caractère médical. Et donc lui, il est devenu, moi je l'appelais le docteur A, et il m'appelait l'infirmier O. Et ces personnages ont été intégrés à la narration. Et donc il y a eu tout un univers qui s'est créé, une interrelation qui s'est créée entre à la fois ces images qui venaient de nos déambulations, qui venaient des films, et puis qui venaient des récits d'Adolfo et de ces deux personnages qui essayaient de créer quelque chose ensemble. Et c'est devenu le matériau même du livre. Et alors je découvre un procédé, qui est un procédé à vrai dire assez fréquent dans ces ateliers de l'AS, c'est l'usage d'images préexistantes.
Et expliquez-nous, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, comme nous sommes partis d'images qui étaient déjà là, les images de nos déambulations, les images des films, donc on a créé en quelque sorte les gravures qui étaient inspirées de ces images, étaient des images d'images en quelque sorte. Et ce procédé-là, c'est en 2009, j'ai l'intuition que je peux l'utiliser de façon exclusive pour réaliser un nouveau livre. Et à ce moment-là, je fais une rencontre, mais ça fonctionne souvent comme ça, je fais une rencontre fortuite en surfant sur Facebook, je tombe sur un strip de Ernie Bushmüller, ce dessinateur américain qui a inventé les personnages de Nancy Enschlugo. Et ce strip de Nancy, il raconte quelque chose qui fait tout de suite écho avec ce que je suis en train de faire avec Adolfo, c'est-à-dire que Nancy a des rebuts dans son garage et elle décide de les emporter à la décharge publique. Elle arrive dans cette décharge publique et elle voit un tas d'objets que des idiots, dit-elle, ont abandonnés. Alors, non seulement elle récupère ses objets, mais elle ne dépose pas non plus les objets qu'elle comptait déposer à la décharge. Elle ramène le tout dans son garage en disant « Mais moi, je trouverais bien un nouvel usage à ces objets. » Et quand J'ai lu, ça fait une espèce d'illumination en fait, esthétique en quelque sorte. Il y a tout un projet de livre qui est né de cette rencontre. Voilà, Nancy, elle me dit ce que je dois faire et comment je dois procéder. Je vais partir sur Internet, qui devient comme une espèce d'immense décharge publique. Je vais partir à la recherche d'images et je vais les récupérer et je vais en tirer des gravures sur bois et je vais faire un livre avec ça.
C'est tout à fait étonnant. Alors, d'autant plus que Nancy, pour le coup, l'héroïne de Dernier Bushmiller, oui, c'est avec l'accent. Elle est dans une esthétique que revendique bien sûr l'auteur, qui est une sorte de lisibilité absolument poussée à l'extrême, avec même une charte graphique, les 69 épis de la coiffure de Nancy. C'est quand même éloigné de votre travail où il y a une incandescence dans beaucoup de cases du château. La gravure permet ça. Alors c'est juste le récit. Qu'est-ce que ça vous a renvoyé? Parce que j'ai envie de savoir comment se sont télescopées un peu ces deux esthétiques. Olivier Depré.
Oui, alors... Bien entendu, il n'a jamais été question, de mon point de vue, d'une restitution absolument identique. Au contraire, ce qui m'intéressait d'emblée, c'était la façon dont la gravure sur bois allait rendre compte de l'univers de Nancy. Et la gravure sur bois, elle allait amener Nancy dans un nouveau monde, qui était le monde de la matérialité de la gravure sur bois. Là, il y a une espèce de pas de côté qui se crée par rapport à cette charte graphique, par rapport à ce trait précis. On n'est plus du tout là-dedans avec la gravure sur bois, on est ailleurs. Mais si vous voulez, c'est cette décharge publique et qui pour moi, a été sans doute le moteur, en fait, qui a stimulé. Parce que, imaginons que j'ai vu un autre strip de Nancy, j'aurais ri. Et puis j'aime l'esthétique de Ernie Bushmiller. Nancy, je l'adore, elle me fait rire. C'est une philosophe en pantalon ou en jupe, hein, en jupette. Elle nous apprend des tas de choses sur le monde, sur la façon de résister et d'affronter ce monde tout à fait délirant dans lequel nous vivons. Le fait qu'elle se rende dans cette décharge et qu'elle récupère ces objets, pour moi, c'était ça qui était l'élément vraiment primordial. Parce que ça amplifiait, ça confirmait un geste que j'étais en train de découvrir avec Anulfo. Et puis, il y a cette idée aussi de l'hétéroclite, de la diversité. Et à ce moment-là aussi, l'aventure que j'ai vécue avec Adolfo, l'aventure graphique que j'ai vécue avec Adolfo, elle prolongeait cette esthétique expressionniste que j'avais explorée dans le château. Et je sentais que j'étais arrivé au bout de cette exploration expressionniste et que ça pouvait devenir une espèce de cachet ou de façon de faire un peu trop habituelle. Et je voulais sortir de ça. Et la diversité, le côté hétéroclite de la décharge m'a mis au fond, au défi de trouver un nouveau rapport esthétique entre la gravure sur bois et le dessin. C'est-à-dire commencer à explorer toute une quantité en fait de dessins très différents. Des dessins de façon comics à la Bushmiller, et puis des dessins qui viennent de mondes plus photographiques ou plus cinématographiques, qui s'inspirent de films, les films de Tarkovsky, de Godard, de Bergman. Alors, il y a eu cette idée-là qui est devenue importante pour moi. C'est la gravure sur bois devient un outil d'investigation graphique, un outil de recherche pour le dessin. Et retrouver un nouvel équilibre entre cette matière et la ligne et la synthèse, tout ce qui, en fait, fait le propre du dessin.
On va écouter Pasolini et Giovanna Marini. A tout de suite.
Non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buia o la baglia con cieche schiarite.
Non è di maggio questa impura aria e il buio giardino straniero fa ancora più buia o la baglia con cieche schiarite.
Olivier Depré, donc là, l'outil, vous l'appropriez, mais ça passe par une sorte de remise en question ou d'interrogation de chaque paramètre de la gravure sur bois. Par exemple, sur le papier, vous sortez carrément des sentiers battus. Parce que en regardant l'ensemble des œuvres faites en gravure sur bois, on a l'impression d'une certaine codification, d'une certaine routine presque. Bon, il y a les adeptes de la manière noire, il y a les adeptes de tirage à la cuillère sur des très grands formats, style kakemono. Alors, à chaque fois, ça peut être puissant, il y a des recherches d'effets très fortes. Mais là, par exemple, votre approche du papier, elle bouscule quand même la pratique.
Oui, depuis 2018, non, depuis 2017, j'ai commencé à utiliser un papier asiatique en particulier, qui est le Fuyang, qui est un papier chinois, qui est un papier de 20 grammes qu'on trouvait avant à Paris au Palais du Papier, et malheureusement ce papier n'est plus importé en France pour l'instant. Depuis 2 ou 3 ans on ne le trouve plus, ça s'est interrompu au niveau de la production chinoise. Et ce papier là m'a permis, alors c'est d'abord le format du papier qui m'a intéressé, parce que c'est un format qui fait 70 sur 130. Et à ce moment-là, en 2017, vers 2016-2017, j'avais fait ce film d'animation en gravure sur bois avec Adolfo. Il y avait eu tout ce que j'ai expliqué, tout ce rapport au cinéma, au mouvement qui s'était mis en place. Et donc, pour moi, la gravure sur bois et le cinéma avaient quelque chose à faire ensemble. Et quand j'ai vu ce format de papier, cette légèreté, j'ai commencé à imprimer en vertical, d'abord, les suites, des suites, des séquences, des suites. Et ça devenait pour moi comme des photogrammes. Et ce papier devenait comme de la pellicule cinématographique. Et donc sa légèreté, sa relative transparence, tout ça pour moi contribuait à donner corps à la conception cinématographique qu'un ami d'ailleurs m'a suggéré d'appeler cinématogravure à ce moment-là. Il y avait, le papier, c'était vraiment pas un choix, c'était un choix esthétique en ce sens qui me permettait, alors au sens d'esthétique très fort du terme, ça me permettait vraiment d'amplifier, de donner corps à mon projet de fusion de la gravure et du cinéma.
Alors, vous avez poussé, donc, réalisé ce film d'animation à partir, bon, il y a un lien avec La mort à la vie à la mort.
Après la mort, après la
après
vie.
La mort, après la vie. J'ai toujours une petite hésitation là. J'ai beau le lire, le relire. Bon.
C'est un truc tellement étrange.
Oui. Et donc, comment avez-vous fonctionné? Parce que ce n'est pas de l'image qui est simplement juxtaposée pour faire un défilé. Il y a vraiment la recherche de création de mouvement. Et comment Adolfo a participé à ça? Comment il se l'est approprié, lui, cette dimension gravure sur bois, cinéma?
Oui. Alors, là, je précise juste ceci, c'est que par rapport à ce dont on parle et par rapport au choix du papier, etc., on revient un peu en arrière et on fait la généalogie de ce choix.
Hein. Tout à fait. On reviendra sur le papier
c'est
de
ça,
toute
voilà.
façon.
Donc, on revient à l'origine de ce choix. Et, alors, je réalise ce film avec Adolfo. Je pense que d'abord, il y a un élément central, c'est que la gravure sur bois, en tant que technique, elle est une contrainte extrêmement puissante, parce qu'on n'anime pas de la gravure sur bois comme on pourrait le faire de monotype, par exemple. Où le monotype, il y a le mouvement, il y a une fluidité. Voilà, je parle de la fluidité du geste de la peinture à l'huile. Le monotype permet ça, et puis ça permet d'avoir tout un jeu d'impression, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça avec la gravure sur bois. Alors, il y a eu d'emblée le choix de fonctionner essentiellement avec de l'image fixe, mais l'image fixe ne signifie pas qu'il y a absence de mouvement. Alors, on a utilisé un élément concret pour suggérer ce bouger cinématographique de l'image. On a imprimé 5 fois la même plaque de gravure, la même matrice, mais en variant légèrement l'impression. Et puis, on a réalisé des boucles aléatoires de ces 5. Donc, on a scanné les cinq impressions légèrement différentes. Et dans la boucle aléatoire, il y a une vibration qui se met en place. Et donc, quand on voit les images, elles sont fixes, mais il y a cette vibration cinématographique qui est présente. Alors, ponctuellement, il y a des mouvements qui viennent ponctuellement relancer, je dirais, cette fixité. Mais alors, dans le cinéma, le montage, des expériences comme Chris Marker l'a jeté, ont montré qu'en réalité, l'immobilité, la fixité de l'image n'exclut absolument pas le déroulé cinématographique et n'empêche pas la suggestion du mouvement qui vient alors plus du montage lui-même et du rythme de défilement des images. Mais ponctuellement, dans le film, il y a, par exemple, à un certain moment, il y a une espèce de corbillard qui se déplace, on voit les roues tourner. Et là, on a utilisé un logiciel très particulier d'animation qui permet de rendre compte de cette rotation. Alors, le logiciel, évidemment, procurait un mouvement beaucoup trop fluide de la roue. Alors, un animateur, mais c'est un animateur spécialisé qui l'a fait, hein, du studio où on réalisait le film, il a enlevé de façon aléatoire des coupes pour qu'on sentent quelque chose de plus heurté, plus en accord, que le mouvement de la roue soit plus heurté, plus en accord avec l'esthétique heurtée de la gravure sur bois.
Alors donc, déjà là, on a tout un cheminement pour aller vers, vers cette, ce lien entre gravure sur bois et cinéma. Et puis, il y a donc cette apparition d'autres papiers, comme les papiers très légers. Et puis, il y a le Kozo, qui est un papier japonais, et qui aussi a des particularités avec la technique de la gravure assez exceptionnelle.
Oui, alors le Kozo, il est lié à une autre rencontre. En 2018-2019, je rencontre un artiste bruxellois, Roby Comblin, qui a une formation de scénographe, qui a travaillé comme scénographe d'ailleurs à Bruxelles. Et puis au début des années 2000, il se met à faire de la gravure et il devient graveur. Il utilise la gravure sur bois, lino, etc. Et alors lui utilise des papiers très légers, comme ça, qui chiffonnent. Il en fait des livrets abstraits, très beaux. Et alors, un jour, je suis contacté par un musée de Bruxelles, un musée du livre et de la reliure, qui me propose de faire une exposition rétrospective. Et moi, j'aime beaucoup travailler en rapport avec, en dialogue. Je trouve ça extrêmement stimulant. Et à ce moment-là, Miles O'Shea, mon ami irlandais avec qui je travaillais, décide de retourner à Berlin, retourner vivre à Berlin. Et je me retrouve seul parce qu'on formait un peu un duo de création. Et souvent, il m'aidait à réfléchir aux installations, aux scénographies des expositions. Et donc, je vais trouver Roby avec quelques croquis. Je lui dis, tiens, Roby, est-ce que ça t'intéresserait d'intervenir dans la scénographie, dans l'installation de l'exposition ? Il me dit, oui, bien sûr. Et puis, notre dialogue s'est tellement bien passé qu'à la fin, Roby me propose de passer une semaine dans son atelier et qu'on fasse quelque chose ensemble. Et depuis très longtemps, j'avais envie de faire une revue en gravure sur bois. Moi, je viens avec cette idée. Et puis, tout de suite, il me dit, ah ben, on va l'appeler Holz. Holz, qui en allemand signifie bois. Holz s'écrit H-O-L-Z. Et quand on écrit H-O et en dessous L-Z, ça fait un très beau logogramme, en fait. C'est visuellement assez puissant. J'ai tout de suite gravé ce logogramme. Roby m'a dit, mais tiens, hein, j'ai ce papier 10 grammes dans un coin. On va imprimer ça là-dessus. Puis tiens, regarde, j'ai des bois de dimension de 50 sur 60 et on avait la dimension de notre vue. Et alors, il y a un élément cinématographique aussi qui s'est introduit dans la production et la création de cette revue, qui est lié au geste du feuilletage de la revue. Parce que c'est un papier, le Kozo 10 grammes, c'est un papier qui est quasi transparent. Et si bien que quand on le feuillette, le papier nous contraint à une certaine gestualité. Il nous contraint à prendre conscience du mouvement du feuilletage. Et d'autre part, selon le côté du livre où on le dépose, enfin si on le dépose la feuille sur la page, sur la page antérieure ou la page postérieure, ce qu'on voit est modifié. Il y a une espèce de mouvement en fait qui s'introduit de la composition en fait. La composition est toujours changeante, comme si on était face à une image cinématographique en fait. Et donc là aussi, et puis on retrouve cette idée de la transparence de la pellicule, de la lecture recto verso. Et donc là aussi en fait, ce papier devient pour moi un médium à part entière en fait.
Alors le format, parce que ce qui est exposé par exemple au local de l'autre côté à Ganges, c'est une sorte de très grand format. Donc c'est la revue dépliée.
C'est la revue dépliée, exactement.
Et donc là, elle est, quand elle est pliée, est-ce qu'il y a comme lorsqu'on faisait les mini récits du journal Spirou, donc on prépare donc une sorte d'attache ou de reliure sur un côté, et puis c'est là que se font les transparences lorsqu'on feuillette.
Oui, alors Le choix que nous avons fait de la reliure, c'est un encollage en fait, un encollage très léger avec une colle à papier tout à fait standard, mais qui est non acide. Et on encolle légèrement, on fonctionne par double page, et donc on enchasse les doubles pages et on encolle. Et comme ça permet de feuilleter, l'objet se tient sans que les feuilles s'égarent les unes les autres.
On va écouter The Cure avec le premier morceau de l'album. Vous êtes sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Olivier Depré qui est en studio à côté de moi à l'occasion de l'exposition qui va avoir lieu, dont le vernissage est à 18h, sur donc son œuvre de gravure sur bois, et ça s'appelle Cinématogravure, texte, image et mouvement. Et tout à l'heure, Olivier donc nous en a donné l'origine. En fait, vous reliez trois dimensions de la création, la bande dessinée, la gravure sur bois, l'art contemporain. C'est de la gravure contemporaine ?
Oui, je crois que c'est de toute manière un mouvement qui est une façon de se positionner dans ces champs qui est lié aussi au collectif Frémok. Je pense que d'emblée, quand on a créé le collectif, il y avait cette idée de sortir de la bande dessinée et d'aller vers les autres pratiques artistiques. Et puis de ramener ce qu'on y trouverait dans le champ de la bande dessinée pour la transformer. Donc pour nous, l'idée de la transformation de la bande dessinée, de son hybridation avec d'autres pratiques, a toujours été quelque chose qu'on a défendu, qu'on a pratiqué, et à un certain moment, de toute manière, c'est devenu une façon aussi de propre à beaucoup d'artistes dans le champ de l'art contemporain. Cette espèce de cette transversalité. Enfin, pensons à des. Je ne me compare pas, mais je cite des noms qui sont très connus pour que chacun puisse voir de quoi je parle. Mais on prend par exemple l'œuvre de William Kentridge. Voilà quelqu'un qui fait du cinéma d'animation, qui fait de la gravure, qui fait du dessin, du fusain, qui a une dimension théâtrale aussi dans son œuvre. Je pense que aujourd'hui les pratiques sont moins cataloguées, même s'il y a sans doute que il y a des stratégies de marché où il y a aussi les galeries qui ont tendance à recatégoriser les choses. Mais vu du point de vue des artistes, c'est beaucoup plus ouvert. Je pense que ça ne nous pose même aucun problème. Et je dirais qu'on ne se positionne même pas en disant mais tiens, voilà, je fais aussi de l'art contemporain. Ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques qui aujourd'hui sont partagées dans ce qu'on appelle l'art contemporain, mais l'art outsider aussi. Tout ça, très heureusement, se conjoint, se retrouve, s'hybride, s'échange. Et c'est ça qui fait la richesse de la pratique artistique, je pense.
Alors Olivier Depré, en 2024, sort Vrek. Et c'est une façon de mettre en lien, en dialogue, des images, comme vous dites, piochées. Comment s'est passé le passage à cette pratique régulière, avec des revues, au livre, au montage même du livre? Est-ce que ça marche de la même manière?
Que, par exemple, que passer de la revue Holz à la fabrication de... Alors, je dirais que... Alors, j'ai commencé à travailler sur Vrek avant de commencer la revue Holz. Donc, je pense que ça, il faut le préciser. Et pour moi, Holz, quand j'ai commencé à travailler avec Roby, à créer cette revue avec Roby, Holz devenait aussi un terrain de recherche pour Vrek. Et finalement, exercer de plein droit sa fonction de revue. Une revue, ça sert à quoi pour les auteurs et les autrices? C'est un lieu où on essaie des choses, où on se dit, tiens, et si je fais ça comme ça, est-ce que ça fonctionne? Et bien oui, ça fonctionne, ok, je peux le récupérer pour le livre. Donc je dirais que c'est aussi pragmatique que ça. Il y avait un souci du montage, bien entendu, dans la revue Holz, qui était résolu autrement, puisque pour réaliser Vrek, j'étais seul en quelque sorte, tandis que pour créer la revue Holz, je l'ai créée en duo. Donc le montage se faisait en dialogue. Et à vrai dire, le montage intervenait après l'impression. Ce qui est inconcevable avec le livre Vrek, puisque le livre Vrek est imprimé en offset, donc il y avait intérêt à préciser le montage avant l'impression du livre. Mais pour la revue Holz, par contre, on imprimait nos doubles pages. On savait, la seule chose qui était précise, c'est que la première de couverture, c'était le logogramme Holz, et que la quatrième de couverture contenait toujours un texte qui permettait de jeter un regard rétrospectif sur la revue. C'était une espèce de contrainte qui faisait que voilà, il y avait ce texte qui donnait une espèce de qui relançait, je dirais, le jeu du sens et des relations texte-image de la revue. Et le montage se faisait après l'impression, quand on avait tout imprimé. Alors on se disait tiens, c'est bien que ça se passe dans cet ordre-là. Pour Vrek, c'est tout à fait différent. La façon dont je procède est la suivante. C'est que je rassemble des images que je pioche donc essentiellement sur Internet, ponctuellement dans des livres. Il y a quelques petits accros à ma règle de piocher l'ensemble des images et des textes sur Internet. Et puis je fais une espèce de pré-montage en fait, dans un cahier InDesign, qui me permet de visualiser déjà avec les textes d'origine et les images sources, de voir comment tout ça peut se rythmer. Et puis ensuite, je fais le transfert, je transpose le texte ou l'image en gravure sur bois, puis tout ça est scanné. Et à ce moment-là, il y a un travail de remontage qui intervient encore. Alors le travail de montage en soi du livre Vrek, il a duré de quasiment de 2000 il a duré 10 ans quasiment. 10 ans de montage, de remontage, de redistribution, de lecture et de relecture.
Qu'est-ce qui fait Olivier Depré qu'il y a un changement, qu'il y a un refus de certaines associations d'images pour que vous fassiez un remontage?
Alors, c'est une question de rythme tout d'abord. C'est vraiment une question de rythme, parce que le montage, il a un point de vue local, c'est-à-dire qu'on se demande ce qui vient avant l'image et ce qui vient après l'image, et puis on se recule un peu et on essaie d'envisager ce que cette petite séquence qu'on a créée vient dire dans l'ensemble du livre et comment elle vient faire écho à d'autres séquences. Et donc c'est un jeu entre les deux approches, en fait, une approche vraiment très fine, très centrée, hein, très localisée dans le livre, et puis on prend du recul et on essaie d'avoir une conception de la totalité. Donc il y a ce battement dans le montage. Et puis par ailleurs, le montage, parce que le montage, c'est une notion, c'est vaste le montage. Il y a le montage complètement neutralisé dans la tradition hollywoodienne, où on a l'impression que le développement des mouvements caméra et des plans de l'un à l'autre se fait presque naturellement, en vision, comme si c'était une vision naturelle qui est en fait pas du tout naturelle. Et puis le montage, c'est aussi un outil qui est un outil propagandaire dans l'entre-deux-guerres. Et puis il y a le montage qui, moi, est le type de montage qui m'inspire et qui est mon modèle, qui est le montage qu'on trouve dans le cinéma expérimental, qui met en évidence plutôt les discontinuités, les ruptures. Et en faisant ce livre, je me donnais comme contrainte de justement manifester la discontinuité, la rupture. Et donc quand des séquences étaient trop proches, alors je créais une rupture. Donc c'est vraiment la discontinuité et la rupture ont été les règles du montage.
Olivier Depré, votre œuvre a une reconnaissance importante. Il y a eu des expositions, notamment à la région Occitanie. Il y a eu le musée d'art contemporain de Sérignan. Il y en a beaucoup d'autres, la liste est longue. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette reconnaissance ?
Alors,
est-ce
que ça change quelque chose ? Alors, je crois que la reconnaissance, je pense que ça joue comme ça pour beaucoup de monde, hein, il me semble, ça donne, ça apporte une certaine...
Une liberté d'esprit ?
Je ne sais pas si ça apporte une liberté d'esprit. Au contraire, ça peut se retourner. Ça peut devenir une espèce de contrainte, se dire « Ouh là là, je suis sous l'effet de projecteur. Je n'ai plus justement cette liberté que j'avais quand je n'étais pas sous les feux des projecteurs. Donc cette reconnaissance, elle vient apaiser des doutes. Le doute. Moi, je suis un douteur. Je doute énormément de ce que je fais. Et ce doute, à certains moments, peut devenir dangereux. Dangereux pour la pratique elle-même, parce qu'elle peut venir la remettre en question de façon un peu trop radicale. Et la reconnaissance, elle vient bémoliser, en fait, ce doute. Elle permet de prendre un peu de distance avec ce doute qui, par ailleurs, est nécessaire. Je pense que c'est ce doute qui m'a, en quelque sorte, contraint à systématiquement chercher une nouvelle forme après chaque livre. Me dire, mais tiens, voilà, j'ai exploré cette forme, et maintenant, je ne vais pas la refaire, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut chercher une autre forme. Donc le doute à ce moment-là, il est nécessaire. Et la reconnaissance, elle vient apaiser ce doute.
Musique. Thank you. Alors, Olivier Depré, on a entendu trois musiques. C'est aussi un grand voyage, avec aussi un dialogue entre. Alors, expliquez-nous vos choix.
Alors, j'ai fait un choix de musical qui faisait écho au choix de différents registres d'images qu'il y a, et de textes qu'il y a dans Vrek. Dans Vrek, je l'ai dit tout à l'heure, ça vient de cette idée de décharge publique, aussi d'hétéroclite. Et donc, il y a l'idée de créer un espace où l'hétéroclite peut pouvoir dialoguer, se rencontrer. Et donc, en choisissant d'une part la musique de Giovanna
Pasolini.
Giovanna Marini et Pasolini, Robert Smith et The Cure, et par ailleurs Giorgio Ligeti. Voilà, il y a cet espace musical de l'hétéroclite répondait à l'espace graphique hétéroclite de Vrek.
Alors Olivier Depré, une activité qu'on peut pas voir dans vos livres, vous emmenez des randonneurs faire des randonnées en Cévennes dessinées. Alors là, il faut nous expliquer, il faut nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans ces randonnées.
Alors, la marche a toujours été importante pour moi. Ce sont des moments où je retrouve... c'est ce mouvement, de toute façon, qui est mon souci de graveur, que j'exprime aussi par la marche. La marche en Cévennes, dans ces paysages fabuleux, magnifiques, très variés. Et le dessin, c'est quelque chose de récent. J'ai voulu revenir à un contact direct avec la chose visuelle, avec la nature, parce que c'est un peu un stéréotype de dire voilà, je veux retrouver la nature, etc. Bon, c'est pas ça. C'est essayer de retrouver un sens dans le fait d'être présent, d'être là avec le monde, mais via le déplacement, via la marche et via le geste graphique. Geste graphique qui est aussi un réapprentissage d'une certaine façon d'être, de regarder. Au cours de ces marches, de ces randonnées, pour un peu assouplir et puis renforcer les connexions main-œil, je propose des petits exercices amusants qui sont des techniques en fait d'apprentissage du dessin. Et de renforcement aussi des qualités visuelles, d'observation. J'en dis une de technique qui est très amusante. C'est, voilà, on prend le temps de bien regarder ce qu'on a devant soi pendant une minute ou trois minutes. C'est un caractère très méditatif. Puis on ferme les yeux et on essaie à main levée de restituer ce qu'on a vu sur la feuille. Et donc on essaie de se concentrer, de retrouver au fond dans cet aveuglement qui n'en est pas un, parce qu'on essaie de recréer une image mentale et de rendre compte de cette image mentale sur la page. Et voilà, on fait ce genre d'exercice, et puis après il y a des moments d'observation, et on essaie de trouver un rythme aussi entre les moments d'arrêt, les moments de déplacement. Il y a des randonnées qui sont plus aventureuses, et des randonnées qui sont plus... J'essaie aussi de trouver un rythme, ça dure une semaine, où il y a la possibilité aussi de faire ça un samedi ou un dimanche. Mais quand ça dure 5 jours, j'essaie de trouver un rythme qui ne n'épuise pas. On ne fait pas 30 km tous les jours. On marche entre 10 et 15 km. Et puis certaines journées de repos où il y a un magnifique lieu avec une petite chapelle à Rogue en face du village. Et là on essaie de faire le tour de ce lieu, de le comprendre, de le regarder, de l'esquisser, de le voir sous différents aspects, de voir ce qui se passe entre les formes, entre les lignes.
Alors, si un auditeur souhaite faire une randonnée. Et comment il fait? Vous avez un site internet, il vous contacte comment?
Il y a un site qui s'appelle gravuration.com. Et sur ce site, vous allez trouver un onglet randonnée dessinée. Et là, il y a toutes les informations. Sinon, vous pouvez me contacter à l'email antiste, A-N-T-I-S-T-E, @fremok.org.
C'est noté. Vous avez tout noté. C'est parfait. Alors, je vais rappeler les caractéristiques de Vrek, donc votre dernier livre, c'est bien le dernier. Donc c'est publié par Fremok, FRMK, sur le livre. Les 256 pages de ce livre sont au prix de 29 euros. Et vous imprimez vos livres dans quel pays?
C'est Vrek était imprimé en Espagne.
Très bien. Bien.
Bon à Barcelone.
Bon choix. Je le mentionne quand c'est France, Espagne, Italie, Allemagne après, ça me dérange un peu plus. Mais c'est parfait. Et puis, donc, rappel, pour l'exposition, le vernissage, c'est ce soir au local DAC, donc Culture et Solidarité à Ganges, à partir de 18h. L'exposition cinématogravure, texte, image, mouvement sera visible jusqu'au dimanche 26 avril avec visite jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a pas d'ouverture pour l'exposition le lundi, le mardi et le mercredi. Merci Issa pour cette technique et la semaine prochaine, eh bien, nous serons avec les auteurs qui exposeront à l'Orbise à Pondéro. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.